Je voulais vous inviter ce soir à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 18. « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire l'Évangile, homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. » Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui répondit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur !» J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Pour remettre un peu dans le contexte, nous sommes ici, Jésus est mort, il est ressuscité 3 jours plus tard, 10 jours plus tard, la Pentecôte arrive, du coup, tout le monde est rempli du Saint-Esprit, les disciples, il y a du coup l'émergence, l'expansion de l'Église qui est là. Mais suite à cela, en fait, on commence à voir la persécution de la part des Juifs qui n'acceptent pas, comme dit le texte, cette nouvelle doctrine, qu'en fait, l'Évangile de Christ mort et ressuscité et que quiconque croit sera sauvé. À partir de là, on a des premiers martyrs comme Étienne. Et on arrive ici à Saul de Tarse, un grand juif très connu qui connaît la loi et un grand zélé qui arrive pour persécuter les chrétiens, les croyants de l'époque. Tellement il va voir les sacrificateurs, les chefs religieux pour demander des lettres pour aller jusqu'à Damas, trouver ces gens qui croient en Jésus-Christ et enfin les enfermer, les emprisonner pour les ramener à Jérusalem. Ici, c'est le contexte. Cet homme, on sait que plus tard, pour ceux qui lisent la Bible, que cet homme, Saul de Tarse, va devenir l'apôtre Paul. Cet apôtre Paul que l'on connaît tous, qui a fait trois voyages missionnaires, qui a ouvert des églises, qui a été un grand apôtre, qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament que l'on a aujourd'hui. 13 épîtres sur 27 livres du Nouveau Testament. Aujourd'hui, on parle de Paul et on dit c'est un grand homme de Dieu. C'est vraiment l'homme qui a subi la persécution. C'est un homme qui a vécu tellement de choses dans sa vie. C'est un homme qui a perduré, qui a persévéré encore jusqu'à la foi. Il a vécu tellement de choses. Et presque on est dans l'admiration de l'apôtre Paul quand on parle de lui. Quel homme de Dieu, l'apôtre Paul. Waouh, extraordinaire. Ouh. Et on oublie parfois en fait le contexte de Paul. Et ce soir, j'aimerais m'attarder non pas sur Paul, mais sur Ananias. Parce que pour comprendre en fait quelque part... L'apôtre Paul, faut un peu dresser le tableau où on ne focalise pas sur Paul, mais en fait sur l'œuvre que Dieu a fait au travers de Paul. Et dans l'œuvre que Dieu a fait au travers de Paul, il y avait des hommes et des femmes qui étaient là avec l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on le voit, Paul est devenu Paul l'apôtre parce que du coup, il a rencontré Ananias. Et Ananias, on sait très peu de choses de lui. D'ailleurs, il n'est mentionné son histoire que dans Acte 9, juste pour la conversion de Paul. Et ensuite, après, Paul le mentionne un peu plus tard dans Acte 22, on peut le lire, Acte 22, verset 12, où il est dit, « Or, un nommé Ananias, donc c'est Paul qui raconte son témoignage, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. » C'est un homme pieux. Paul le décrit comme un homme pieux, comme un homme fidèle à la loi. C'est un homme attaché. Et ici, dans Acte 9, on le lit, je viens de perdre la page, on le lit ici, « Or, à Damas, au verset 10, Acte 9, verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » On ne parle pas d'un ministère dont l'évangéliste Ananias. On ne parle pas du pasteur Ananias. On ne parle pas de l'apôtre Ananias. On parle de Ananias, le disciple. Et je pense que disciple, ça nous réunit tous. Nous qui, un jour, avons rencontré Christ dans notre vie. Nous qui l'avons accepté comme sauveur, comme Seigneur. Nous sommes devenus enfants de Dieu, en effet. Mais nous sommes aussi devenus disciple du Christ. Et pour aujourd'hui un peu retranscrire le mot disciple, parce que des fois on peut avoir un peu une connotation un peu sectaire ou vous savez comme les gourous avec des disciples. On peut retranscrire par le mot élève. Et je pense que un jour on a tous fait l'expérience de l'école avec des professeurs et que nous avons tous été au moins dans les bancs de l'école et que nous avons été appelés élèves. Et la particularité d'un élève, c'est que il écoute un enseignement. Et Ananias était aussi un homme comme ça. Il écoutait un enseignement. On le voit dans sa manière d'écouter. Et je pense que quelque part, ce qui nous fait défaut, vous savez, il y a les bons et les mauvais élèves. Il y a ceux qui écoutent et ceux qui chahutent. Et puis, il y a aussi ceux qui chahutent pas, mais qui, du coup, sont un peu pas très écoutants. Et je pense qu'en tant que disciple, on doit aussi apprendre à écouter notre maître, à écouter Christ, à écouter notre professeur, Jésus-Christ, la voix du Saint-Esprit en nous. Ne l'avons-nous pas chanté? Obéir à ta voix, écouter ta voix. Seigneur, dispose mon cœur à écouter ta voix. Et Ananias se montrait ainsi, alors que le Seigneur l'interpelle. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Moi, je m'imagine un peu dans la scène, je suis Ananias, je m'assois, et puis d'un coup, dans mon temps de prière, Dieu m'interpelle. Et la chose, c'est, me voici, Seigneur. Et il montre ici à Ananias, en fait, sa disponibilité, sa disposition. Sa disposition, son cœur est disposé à l'écoute de ce que Dieu veut lui dire. Me voici, Seigneur. Et bien souvent, si vous vous souvenez un petit peu de vos temps d'école, et pour vous qui êtes à la fac, étudiants, souvent on n'écoute pas l'enseignant parce que on est distrait, on pense à autre chose. Et parfois, on rate le message, on rate l'enseignement. Dieu veut nous parler, mais on n'est pas là. On est peut-être là présent de corps, mais on n'est pas là, le cœur disposé. Seigneur, nous voici devant toi, tous ensemble, tous réunis. Et ce soir, c'est ce que nous faisons. Nous sommes rassemblés ensemble, ce soir, pour chanter les louanges à Dieu, pour chanter l'adoration qui lui est due, pour le célébrer, pour prier, intercéder, mais aussi pour l'écouter. Seigneur, me voici devant toi. Nous voici devant toi. Et je prie que lorsque Dieu nous interpelle comme ça, nous puissions mettre de côté tout ce qui viendrait nous distraire, téléphone portable, même les soucis, même les choses qui sembleraient légitimes. Tout ça parce que la voix du Seigneur, c'est la chose la plus importante. Dieu vient nous parler. C'est pas n'importe qui, Dieu. C'est pas n'importe qui, le Saint-Esprit. C'est notre Sauveur. Et il a une parole. Seigneur, que mon cœur soit disposé et que mon oreille soit prompte à écouter. Au verset 11 et 12, Dieu lui révèle alors sa tâche. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Voici la mission d'Ananias. Dieu lui dit, va voir Saul de Tarse. Voici une parole assez précise parce que du coup, il lui dit exactement, je t'ai choisi toi, Ananias. J'ai pas choisi l'évangéliste du coin, connu, reconnu. J'ai pas choisi quelqu'un forcément de courageux ou pas courageux. Je t'ai choisi toi, disciple Ananias. Toi qui es disponible. Toi qui es là et qui entends ma voix. Tu es là. Et la réponse d'Ananias, évidemment, c'est, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. Un grand persécuteur, on le connaît. On est à Damas et tout ce qu'il a fait à Jérusalem, tout ce qu'il a fait jusque-là, jusqu'à même avoir des mandats, tout le monde sait. Ananias sait qu'il est parti voir les souverains sacrificateurs pour chercher des mandats, pour pouvoir aller persécuter les chrétiens, les croyants. C'était le téléphone israélien. Tout le monde le savait, la réputation de Saul de Tarse, le persécuteur, le poursuivait, et tous les croyants étaient au courant. Faites attention, ce gars, il est dangereux. Il a même été pour la lapidation d'Étienne, un des nôtres, un gars important, celui qui est un des diacres. Une personne remplie du Saint-Esprit, qui rendait un bon témoignage et qu'on avait nommé avec d'autres. Eh bien, il a lapidé. Il était pour la lapidation de ce frère. Et moi, Ananias, toi, Seigneur, tu veux que moi, Ananias, simple disciple croyant, tu voudrais que j'aille le voir? Il s'est rien passé, en fait. Il y a juste la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans la logique, si je vois un grand prisonnier devant moi, très baraque, voilà quoi, vous avez vu mon corps, j'irai pas très loin. Et dit, va lui imposer les mains parce que il est malade et qu'il a besoin d'entendre l'évangile. Je vous avoue que l'apparence est là. Et ça, c'est tout humain que nous sommes, nous regardons d'abord les apparences, les circonstances qui se présentent devant nous. Et on considère, et on les grossit, et on voit la chose plus grosse. Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens, de nos frères et de nos sœurs. Et tu m'envoies moi, qui suis-je pour y aller? Et Dieu lui répond, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voici la réponse. Ananias, il informe Dieu. C'est un concept d'informer Dieu. Mais Ananias informe Dieu de qui est Saul de Tarse. Et la réponse de Dieu, c'est « Vas-y ». Il n'a pas dit « Je comprends, t'inquiète pas, je suis avec toi ». Je t'accompagne jusqu'au bout. Non, elle a dit, va. Va. Va rencontrer Saul de Tarse. Va. Et il obéit. Je pense qu'aujourd'hui, on lit les textes un petit peu comme ça, très rapidement. Et des fois, on s'arrête même pas sur le fait que on peut être ces hommes et ces femmes. C'est pas on peut être. C'est on est ces hommes et ces femmes que Dieu appelle. À dépasser les circonstances, les apparences qui se présentent devant nous. Là où des fois, on va se dire, mais celui-là, il est dur. Même si je lui témoigne, il va même pas être touché par l'amour de Dieu. Mais celui-là, il est condamné, sa maladie, elle est incurable. Alors du coup, ça sert à quoi de prier? Et des fois, on est là et on pronostique. C'est comme si on pronostiquait pour ceux qui jouent au foot, Barça, OM, qui c'est qui gagne? Je donne pas de réponse. Ça me fait mal au cœur. Mais on pronostique comme ça. Parce qu'on se dit, au Barça, ils ont les meilleurs joueurs, et à l'OM, voilà. Sans commentaire. Mais nous, on est là. Et on pronostique de la même manière toutes les circonstances qui se présentent devant nous. Je n'y arriverai pas. Je ne me détacherai pas de ma maladie. Je ne me détacherai pas de ces choses. Mes amis sont trop durs. Ma famille ne se convertira jamais. Ils ne connaîtront jamais l'amour du Christ. Mes enfants se convertiront jamais. Oui, parce que je les vois là en ce moment. Ils sont en train de picoler. Ils font les 400 coups. Mon père est trop dur, il est dans une religion ou dans une croyance, ou alors il est complètement athée, alors là, si on lui parle de Dieu, c'est complètement fini. C'est une barrière devant nous. Et on croit que c'est impossible. Mais ça, c'est pas le langage de la foi. Le langage de la foi, elle dit, sur ta parole, je m'appuie et j'obéis. Je peux avoir toutes les circonstances qui vont contre mon gré, à contre-courant. Mais sur ta parole, j'y vais. Vous souvenez-vous, un jour, les disciples avec Pierre dans la barque, ils sont sur le lac et il y a la tempête. Mais il n'y avait pas Jésus dans la barque. Jésus, il vient plus tard et il est sur le lac. Et puis, ils disent, mais qui c'est? C'est un fantôme? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, dit Pierre. Et Jésus de lui répondre, viens. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Pierre. Il y a la tempête. On est dans une barque. C'est pas le Titanic. C'est pas les bateaux de croisière. C'est la barque, vous savez? Et du coup, ça bouge partout. Et puis à un moment donné, Jésus lui dit, vas-y, t'as mon feu vert, viens. Et Pierre, il arrive. Sur la parole de Jésus, il y va. Hop, il sort le pied. Et il sort de la barque. Il marche sur l'eau. Et ça, c'est une histoire qui est super connue. On la raconte à l'école du dimanche. On la raconte encore et encore. Et on la prend comme exemple. Mais tirons-nous un enseignement de Pierre qui sort de la barque sur la parole de Jésus. Ça me rappelle aussi Moïse. Il envoie 12 espions pour aller visiter le pays de Canaan. Donc, pour l'histoire, ils sortent de l'Égypte. Le peuple hébreu sort de l'Égypte avec Moïse comme chef à la tête. Donc, pour aller dans le pays promis, qui est Canaan. Et il envoie 12 espions. Et 12 espions reviennent, ils font un rapport. 2 sur 12 disent, oh, c'est un super pays, là où coule le lait et le miel. Franchement, méga pays. Les 10 autres, ils arrivent et disent, ouais, c'est un super pays, mais il y a des géants. Ça va être compliqué un petit peu de conquérir ce pays. C'est dur. Je sens que nous, on est un petit peu comme des sauterelles face à ces géants. Et là, il y avait de l'incrédulité. Il y avait du doute. On a considéré, ok, il y avait des bonnes choses. Mais là, on a mis notre focus, c'était sur les défis, sur les challenges. Et malheureusement, ça leur a coûté. Ça leur a coûté. Et ils ont oublié. Ils ont oublié tout ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Ils étaient témoins des 10 plaies. En Égypte, c'est connu, hein, les 10 plaies d'Égypte. Ils ont été témoins de la mer rouge ouverte en deux, du passage de l'armée égyptienne qui tombe et qui se noie. Ils ont oublié tout ça. Et ils ont méprisé la puissance de Dieu. Alors que Dieu leur avait promis, je vais vous envoyer dans le pays de la promesse. La parole de Dieu, elle est là. Et ils n'ont pas cru parce qu'ils ont considéré le défi. Et parfois, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement, on est là Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a dit des choses. Mais on considère le défi. On le voit plus gros. Et plus on grossit le défi, et plus on rapetisse la puissance de Dieu. Alors que Dieu est bien plus grand que ça. Seigneur, viens m'ouvrir les yeux afin que je voie la grandeur de ta puissance face à mes défis, face à mes challenges, face à tout ce que je vis, face aux circonstances qui se présentent devant moi. Voici nos prières. Peut-être qu'on ne réalise pas assez le Dieu qui est grand. Parce que si vraiment peut-être on connaissait tout pleinement sa puissance, on prierait peut-être pas des fois comme on prierait. On louerait peut-être pas comme on louerait. On intercéderait peut-être pas comme on intercéderait. On dirait vraiment avec ferveur, Seigneur, vois cette maladie, je te prie, Seigneur mon Dieu, de guérir. Vois cette situation qui est bloquée, je te prie de, Seigneur mon Dieu, débloquer la situation. Seigneur, tu es plus grand que cette situation, tu es plus grand que cette maladie, tu es plus grand que ce cœur dur qui veut pas t'accepter, ton amour est plus fort que ça. C'est toi qui as transformé un Saul de Tarse en un apôtre Paul plein d'amour, capable d'écrire 1 Corinthiens 13. David contre Goliath. David est un simple berger qui aimait louer Dieu pendant qu'il paissait le troupeau, qui faisait paître le troupeau. On va dire peut-être plus mieux comme ça. Et tout le monde arrive. Goliath, il arrive, le Philistin. Voilà, c'était le prisonnier de tout à l'heure. Le grand Barak, il arrive et se présente devant l'armée d'Israël. Et tout le monde est impressionné par le Goliath, le grand guerrier. Et David arrive, un petit roux, blond. Enfin, pas roux, blond, hein. Blond, roux, on va dire, peut-être à l'envers. Et il est là. Mais qui c'est qui ose insulter le Dieu que je sers, le Dieu que je loue, l'Éternel des armées? Toi, tu viens avec ta lance, tu viens avec ton bouclier. Moi, je viens au nom de l'Éternel, dit David. Et c'est comme ça qu'il défait. Oui, ok, d'accord. Ça peut impressionner un Goliath, juste devant nous, un grand gaillard de 3 mètres, bien costaud, par rapport à un petit David un peu moins costaud. Mais je veux pas me fier aux circonstances. Et Ananias l'a su. Sur ta parole, Seigneur, malgré les persécutions, même si un de mes frères, entre autres, Étienne, est tombé, je suis là, je vais t'obéir. Les pronostics sont là. Peut-être que... ouais. Ça va être dur. Mais en fait, comme tu me le dis, je veux obéir. Je veux serrer ta parole dans mon cœur. Je veux t'obéir. Je pense que nous devons apprendre à avoir plus confiance en Dieu. De plus en plus. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que on a aussi des moments comme ça où on se réunit pour parler de la parole de Dieu. Dans la jeunesse, les mardis soirs, le dimanche matin, le dimanche après-midi et tant d'autres occasions. Et en plus de ça, de nos cultes personnels, de prendre le temps aussi de méditer la parole de Dieu, de lire et d'essayer de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ces histoires? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de la Bible? Tu veux te faire connaître à moi. Tu veux te faire connaître ta grandeur et ta puissance. Seigneur, je veux ouvrir grand mes oreilles pour te découvrir encore beaucoup plus. Et découvrir encore beaucoup plus à quel point tu es un Dieu d'amour. Un Dieu compatissant. Un Dieu fort et puissant. Seigneur, j'ai mes soucis. Mais ta parole me dit que tu sais mes soucis. Et Seigneur, quand je remets ma confiance en toi, je reconnais que tu es celui qui sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. La tempête par laquelle je peux passer, tu le sais. Et tu dis que tu es avec moi. L'épreuve que tu me permets d'être là, tu le sais et tu ne m'abandonnes pas. L'apôtre ne serait peut-être pas devenu l'apôtre Paul s'il n'avait pas eu Ananias. Et pourtant, Ananias, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. L'apôtre Paul ne serait peut-être pas devenu l'apôtre Paul aussi si un jour Barnabas n'était pas venu et ne l'avait pas introduit dans le groupe des disciples à Jérusalem. Parce que tous connaissaient la réputation de Saul de Tarse. Mais Barnabas aussi a pris son courage à deux mains. La parole de Dieu ne nous dit pas forcément qu'il a eu vent de quoi que ce soit, mais il a introduit l'apôtre Paul dans le groupe des disciples. L'apôtre Paul, ce que je retiens, n'a pas fait l'œuvre de Dieu tout seul. Quelqu'un a relevé qu'en fait, l'apôtre Paul, dans toute son histoire, aurait eu, en tout cas mentionné dans le Nouveau Testament, aurait eu 43 compagnons d'œuvre. Barnabas, Silas, Timothée, Tite, Aquilas, Priscille, Épaphras, Tychique, etc., etc., etc. Nous sommes enfants de Dieu dans une grande famille. Nous ne combattons pas seuls. Nous servons l'Éternel des armées, le Dieu d'amour. Nous ne sommes pas seuls. En tant qu'enfants, on a des frères, des sœurs. L'apôtre Paul le savait. D'ailleurs, quand Jésus il envoie ses disciples guérir les malades, chasser les démons, propager l'Évangile, et les envoyer par deux, jamais tout seul. Aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir nous rassembler pour mener le combat dans l'intercession, de prier les uns pour les autres, de nous rassembler. Prenons avantage de ça, profitons-en. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est au milieu de nous. Prenons conscience que Dieu est là, on le chante. Prenons conscience. On aurait pu dire même que Moïse n'aurait pas été forcément le libérateur si, par exemple, il n'avait pas eu le soutien de son frère Aaron, Myriam, et pour la partie guerre, Josué. David n'aurait peut-être pas été le super roi ou le roi tout court si, en fait, il n'y avait pas eu Jonathan, le fils de Saül, le premier roi d'Israël. Alors que Saül, le premier roi d'Israël, voulait assassiner David. Jonathan l'a couvert et l'a prévenu. Bien des hommes et des femmes ne sont peut-être pas, nous on entend des grands noms, des personnes de grand renom. Par exemple, je vous cite bien souvent Douglas Scott. Vous connaissez l'instrument que Dieu a utilisé pour le réveil en France dans les années 1900. Mais peut-être que Douglas Scott n'aurait pas été cet instrument si Hélène Biolay, que personne connaît évidemment, n'avait pas prié avec ses amis et ne l'avait pas invité dans son café, le ruban bleu, pour évangéliser. Peut-être qu'il n'y aurait pas tous les pasteurs que vous connaissez, tous les hommes ou femmes de Dieu que vous connaissez, s'il n'y avait pas eu des gens que Dieu avait mis sur son chemin, sur leur chemin, pour les soutenir, pour les aider, pour leur témoigner de l'amour du Christ. Et nous sommes appelés à être ces personnes-là aussi. On ne sait pas en fait. Paul, il n'était pas là à se dire « Je vais devenir l'apôtre Paul, le grand, extraordinaire, je vais écrire presque la moitié du Nouveau Testament. » Il était là, il a dit « Ok, pendant un certain nombre d'années, je me suis trompé. J'étais zélé, mais pas de la bonne manière. Ensuite, je me convertis, maintenant je suis zélé d'une meilleure manière. Je sers Christ. » Il ne pense pas à la postérité. Il ne pense pas à dire « Je vais faire des grandes choses. » Il dit « Je vais faire des choses pour Dieu. » Et je pense qu'aujourd'hui, on se dit, mais moi, j'ai rien, j'ai pas de qualité, j'ai pas un grand art oratoire, ou je n'ai pas la parole facile, ou alors le témoignage facile, ou alors j'ai peur du jugement, ou alors je suis pas digne. Il faut arrêter de considérer tout ça. Dieu nous a pris tel que nous sommes pour le servir. Et notre prière a autant de valeur, notre témoignage a autant de valeur que n'importe qui. Parce que ça voudrait dire quelque part qu'on méprise la grâce de Dieu dans notre vie. Alors que la grâce de Dieu, elle est infinie. Ce que Dieu a fait de nous, c'est quelque chose de glorieux, de grand. Alors faisons-le ce soir. Prions, intercédons. prenons notre place, même si on n'a pas une super élocution, même si parfois on n'est pas bien disposé. Mais Seigneur, mon sacrifice, c'est mon intercession. Je ne suis pas disposé parce que je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Ma réponse à ton amour, c'est mon intercession, ma louange, mon adoration. Je te fais confiance pour ma situation, mes challenges. Seigneur, donne-moi à croire encore plus en toi. Ne soyons point sages à nos propres yeux. Proverbe 3, verset 5, nous invite à nous confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton raisonnement, mais confie-toi en l'Éternel des armées, au Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui est partout. Souvenons-nous de qui est Dieu et appuyons-nous sur sa parole. Et c'est comme ça qu'au travers de nous, Dieu fait des prodiges et des miracles. Croyons, croyons en ce que nous prions, croyons que Dieu nous entend. Est-ce que vous voulez pas voir la gloire de Dieu ici à Toulouse-Ouest? Vous voulez pas voir le réveil en France encore? Vous voulez pas voir des choses merveilleuses se passer dans nos foyers, dans nos familles? Vous voulez pas voir des prodiges, des miracles? Vous voulez pas voir encore beaucoup plus la gloire de Dieu afin que les gens reconnaissent et confessent que Jésus est Sauveur et Seigneur? Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour parfois ma non-disponibilité, pour parfois, Seigneur mon Dieu, de ne pas t'avoir mis premier dans les projets, de ne pas avoir cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, de peut-être m'être inquiété pour les choses de ce monde, pour m'être inquiété même aux besoins légitimes que je pouvais avoir. Mais Seigneur mon Dieu, le plus possible, je veux me rendre disponible pour ton œuvre qui est si grande, si prodigieuse, Seigneur mon Dieu. Autour du tableau, Seigneur mon Dieu, de Saul de Tarse, de l'apôtre Paul, Seigneur mon Dieu, il y avait des compagnons d'œuvre, il y avait ton esprit, il y avait ta personne, Seigneur mon Dieu, tu étais là. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons nous soutenir les uns les autres, nous voulons voir ta gloire ensemble, Seigneur Jésus, comme le chant le disait, Seigneur mon Dieu, oui, manifeste-toi, manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, que Seigneur Jésus puisse passer des choses, que les gens puissent reconnaître que tu es encore capable au 21e siècle d'accomplir des prodiges et des miracles. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas nous confier, Seigneur mon Dieu, dans nos pronostics, dans nos raisonnements, dans toutes les choses que nous pouvons voir comme grand, comme impossible. Mais Seigneur, nous voulons croire au Dieu de l'impossible. Nous voulons croire au Dieu qui est capable de donner des percées, de Seigneur mon Dieu, nous donner, Seigneur mon Dieu, le prodige, le miracle, Seigneur mon Dieu, qui te glorifie. Seigneur mon Dieu, nous voulons aller dans des étapes supérieures de foi, dans ta confiance. Ouvre notre intelligence, dispose nos cœurs, peut-être même si je suis timide, même si peut-être parfois je suis dans la crainte. Seigneur mon Dieu, je veux élever ma voix pour, Seigneur mon Dieu, intercéder parce que mon copain, ma copine, Seigneur mon Dieu, mon enfant, mes parents, n'importe qui, mon collègue de travail, Seigneur mon Dieu, est dans le besoin. Lui, il est pas sauvé, Seigneur mon Dieu, mais je veux prier, Seigneur mon Dieu, au travers de mes pronostics, de mon raisonnement, afin qu'il le soit. Seigneur mon Dieu, je veux te prier, Seigneur mon Dieu, afin qu'on ait un zèle nouveau, Seigneur mon Dieu, une ferveur nouvelle, Seigneur mon Dieu, à t'obéir, à entendre ta voix, Seigneur mon Dieu. Voilà, Seigneur mon Dieu, viens encore nous parler jour après jour, que cette soif, Seigneur mon Dieu, demeure, que cette soif persévère, Seigneur mon Dieu, en nous. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta compassion, merci pour tout ce que tu es, au nom de Jésus. Amen.